Bonjour Hélène.
Bonjour Martin.
Ah, un rapport que je qualifie un peu particulier, celui rendu hier sur les gaz à effet de serre de la ville de Sherbrooke. Et quand je dis particulier, parce juste pour mettre en perspective, là, c'est que j'ai l'impression qu'on a comparé des pommes avec des oranges, là, parce que pour l'inventaire 2009, qui est l'année de référence, de ce qu'on vient nous dire, c'est que, à la différence de l'inventaire 2009, l'inventaire 2016 a été réalisé avec une méthodologie plus détaillée. Donc, on se base pas sur les données compilées de la même façon. Alors, c'est pour ça que je trouve particulier qu'on en arrive à donner des chiffres alors qu'on s'est pas basé sur les mêmes caractéristiques.
Oui, ben j'imagine qu'avec le temps, là, les connaissances avancent un peu. On sait qu'il faut collecter des données sur plus de secteurs de l'économie sherbrookoise. Donc, j'imagine que c'est pour ça que la base a changé. Je pense que la conclusion générale, on peut s'y fier, une baisse de 2,6% des gaz à effet de serre. C'est la moitié de l'objectif qui avait été déterminé. Cependant, moi, je me dis, chaque pas dans la bonne direction est intéressant. Puis, il ne faut pas oublier qu'entre-temps, la population a augmenté. Donc, l'activité de tout le monde, on aurait pu s'attendre à avoir une hausse et malgré ça, on a une baisse. Donc, c'est intéressant. L'objectif qui se donne pour la période 2019-2030, par exemple, il me semble très ambitieux. 30 % sur 11 ans.
C'est beaucoup.
C'est ça, effectivement. Puis surtout quand on voit que sur les 5 dernières années, on a eu de la difficulté.
Oui.
Là, il faut voir donc quelles mesures vraiment différentes vont être prises pour pouvoir passer d'une amélioration d'un niveau assez faible à beaucoup plus important. C'est sûr aussi, Martin, hein, dans des sociétés comme les nôtres, là, tout le monde, on veut qu'il y ait moins de gaz à effet de serre, de produits, puis tout ça. Puis oui, on veut tous que la planète survive. Mais en même temps, dans des sociétés avancées comme les nôtres, là, il y a beaucoup de pratiques qui ont été changées avec le temps, là. Comme je dis, il y a des pays, là, tu n'as même pas de système de ramassage de déchets. Ici, on est très, très loin de là.
Ouais,
donc,
sauf que
c'est difficile de s'améliorer.
Oui, puis en même temps, les lieux d'enfouissement de nos poubelles sont parmi les plus grands producteurs de GES.
Ben, tu sais, plus grands, ils en produisent. Là,
ils disent
46 000 tonnes sur un total de 876.
Oui.
Oui, puis effectivement, ça...
ils en produisent.
Tu n'as pas le choix de...
Des enfouir, c'est ça.
C'est ça. Puis est-ce qu'on pourrait capter des gaz puis faire autre chose?
Oui.
Je sais pas.
Ben ça, je sais qu'il y a un projet qui est étudié actuellement puis qu'Énergie n'est pas loin de ça, l'ancienne gaz métro. Là.
OK.
On nous avait parlé de ça à un moment donné. Là. Alors ça pourrait être une possibilité qu'on pourrait peut-être sauver des fameux GES.
C'est ça. Il y a beaucoup de choses dont on nous parle, hein, puis ça aboutit pas souvent.
T'as raison.
Tu sais, comme c'est Enerkem qui avait une usine pilote dans le coin qui devrait avoir une usine à Varennes. Ça fait longtemps qu'on nous dit que ça s'en vient, là, l'année prochaine.
Bien, parce que l'usine test est dans l'ouest canadien, je ne me trompe pas, Edmonton. Puis là, il y avait Varennes qui devait aussi voir le jour. Puis là,
c'est ça, puis il y avait un petit projet pilote dans le coin de Bury, si ma mémoire est bonne.
Exact.
Puis, mais Mme Pelchat, par contre, dans son rapport, ce qui est intéressant, elle nous dit la ville, eux autres, ils ont du contrôle direct sur leurs activités. Mais la ville ne produit que 2 % des gaz à effet de serre de la municipalité.
Fait
que
t'as
pas un jeu sur grand-chose. Et là où peut-être la ville peut avoir un jeu, c'est indirectement sur la production de la part des citoyens. Donc, un des grands leviers qu'elle a, c'est au niveau de tout le règlement de zonage et de la densification. Puis d'ailleurs, elle l'a dit, il faut essayer de densifier davantage plutôt que de s'étendre. Mais là, tu te rappelles, Martin, on a parlé il y a une semaine ou deux. Il y a un promoteur, là, Robert Descôtés, qui veut construire, lui, une tour de 17 étages sur la rue Pacifique. Puis c'est lui qui a développé la cellule résidentielle contiguë. Donc, ça doit être pas une tour qui va s'inscrire en faux contre tout ce qu'il y a dans ce coin-là, parce que
il y a
sait
déjà
bien,
un développement, là.
Ben, c'est ça, puis c'est lui qui l'a fait.
Ouais.
Puis là, on mettrait d'un coup en une place... sur un terrain pas très grand, 200 logements. C'est ça, densifié.
Ouais.
Là, on en a une belle occasion. J'espère que la ville va sauter dessus. Surtout, là, ça va être tout frais dans leur mémoire, là, mais qu'il y a se repencher sur ce dossier-là que... Niveau de l'atteinte des cibles de gaz à effet de serre. Là.
Moi, j'aimerais ça qu'on produise aussi, parce qu'on entend beaucoup ça. Bon, l'étalement urbain, c'est une problématique. Ça cause des effets, justement, sur les gaz à effet de serre. J'aimerais ça qu'on ait un portrait juste et clair de ça. Tu sais, de faire de cause à effet. Tu sais, à savoir que voici, en termes clairs, ce que provoque l'étalement urbain par rapport, justement, à la production de gaz à effet de serre. Ça, on serait bien, parce que souvent, moi, je ressens ça comme un pelletage de nuages, parce que je trouve que c'est, il n'y a rien de concret à me convaincre que, ah oui, c'est vrai, ça pourrait faire que.
Mais c'est... déjà, Martin, dans le tableau là, publié par la Ville, on voit que le plus grand contributeur au gaz à effet de serre, c'est le transport.
Mais oui.
Donc, quand on densifie, mais au lieu, les gens, quand ils partent, je sais pas, de la rue Pacifique dans l'Ouest, puis s'ils travaillent dans la ville de Sherbrooke, ben ils risquent de faire moins de kilométrage chaque jour que s'ils habitent à Saint-Élie puis qu'ils travaillent dans le cœur de la ville de Sherbrooke.
Ouais,
là, on voit déjà qu'on économise des gaz à effet de serre.
Oui, mais encore, faut-il que ces gens-là qui vont être dans le secteur plus densifié travaillent dans ce coin-là? Parce qu'on s'entend que ça voyage pas mal. Il y a du monde qui reste à Sherbrooke, travaille à East Angus et vice-versa.
Oui, effectivement. Mais tu sais, dans un certain périmètre, il y aurait
un gain.
Une épargne de gaz à effet de serre, si on veut. Mais tu as raison, c'est toujours très compliqué, tout ce qui concerne l'environnement. Puis je te donne un exemple.
Oui.
Je lisais dans les journaux, puis j'ai vu qu'il y a une ville au New Hampshire, la ville de Franklin, qui a mis fin au recyclage. OK? Depuis que la Chine a mis fin à la réception d'un paquet de marchandises, bon, donc, eux, ils ont mis fin au recyclage. Puis je te donne un exemple. Ils disaient, avant, pour les ballots de matière recyclée, ils recevaient, quand ils vendaient ça, leur centre de tri, 50 $ du ballot.
Oui.
Mais là, à l'heure actuelle, c'est rendu que s'ils veulent... que leur ballot soit retrié par des gens, ça coûte 175 piastres la tonne. Donc, on est passé de plus 50 $ à moins 175 $ Et puis, donc, ils ont choisi, eux, comme solution d'envoyer ça à un incinérateur qui leur charge 90 $ la tonne. Donc, presque la moitié moins que...
De le faire traiter puis d'essayer de trouver preneur qui, malheureusement, ça coûte de l'argent plutôt que de les vendre.
Exactement. C'est puis toutes les matières recyclées, quand on prend les plastiques, le papier, le carton, il y en a plusieurs là que les prix sont déterminés quasiment sur les marchés mondiaux. Puis ça fluctue beaucoup, beaucoup.
Énormément. Donc, il y a des prix là que c'était drôlement intéressant il y a une couple d'années que maintenant, ça vaut plus rien.
C'est ça, fait que c'est très difficile de planifier des investissements, de planifier ce que tu vas faire, puis de ne pas te faire prendre justement des fois avec de la matière que tu ne sais plus où envoyer. Donc, c'est un monde complexe, l'environnement.
Ouais.
Puis comme tu disais tout à l'heure, on a très peu d'études qui calculent toujours l'ensemble des du cycle de vie, sur l'ensemble du cycle de vie, l'ensemble des activités, comment on peut... Puis, une dernière chose sur cette ville-là, là, dans leur rapport, ils ont dit il y a toujours des gens qui n'avaient jamais voulu trier leurs déchets à la source. Et dans leur coin, là, ils évaluaient ça à 25 à 30 %.
Eh oui!
C'est ça.
C'est puis, énorme.
Je me rappelle, Martin, quand j'étais à Récupestrie, on faisait faire des visites du centre de tri.
Mm-hmm.
Mais les gens, une fois qu'ils ont visité le centre de tri, ils repartent beaucoup plus conscientisés.
Ben oui.
Ils sont beaucoup plus aidants pour l'ensemble du processus.
Ouais.
Quand les gens rentraient là, dans la zone de réception des matières, là, ils voyaient un immense tas, 4-5 fois leur hauteur. Puis là, ils demandaient, hey, ça a pris combien de temps à remplir ça? T'sais? Une semaine, deux semaines? Non, deux fois par jour.
Ouais.
C'est comme ça. Là, tu vois que ça ne peut pas se faire par des processus à la main, le tri. Puis, si tu veux que tes machines y fassent une job potable ou correcte, ben il faut que quand tu ouvres le couvercle de ta poubelle verte ou bleue, là, que tu mettes la bonne affaire dedans.
Ouais.
C'est pas si compliqué.
Ouais. Crois-tu que le fédéral va pondre quelque chose d'intéressant puis remarque qu'ils se sont donné la marge de manœuvre, puis en même temps la marge électorale avec l'annonce de Trudeau hier sur justement l'élimination de certains articles de plastique.
Ben oui, attendre à l'ouverture presque de la campagne électorale pour dire on va interdire les plastiques à usage unique.
Et là, en 2021!
2021 aussi, pas de détails. Aucune idée des produits visés, aucune idée du comment, aucune étude d'impact sur la société, sur l'industrie, parce qu'il y a des producteurs de plastique qui ne produisent que du plastique à usage unique. Donc,
mais on l'a vu ici, des restaurateurs, puis on a eu des entrevues d'ailleurs avec des fournisseurs qui maintenant sont passés aux ustensiles compostables, à des assiettes. Il y a certains restaurants là, qui n'utilisent que ça maintenant. Là.
Oui, puis ça, avant même donc qu'on parle d'interdire les plastiques, c'est la conscience sociale souvent des gens. Puis on se rappelle, les Louis Luncheonnette, là, ils ont fait un sondage. Êtes-vous prêt à payer plus? Puis eux autres, je pense que c'était 10% de plus si on a de la vaisselle compostable. Je sais pas, on n'a pas eu les résultats du sondage. Je serais curieuse.
Ça semblait positif, en tout cas.
Je serais curieuse de les connaître parce que la dernière fois que je suis allée, c'était encore les mêmes contenants, mais ils ont peut-être un inventaire à passer. Mais là où c'est intéressant, c'est ça, que le gouvernement fédéral envoie ce signal-là, ben on sait qu'on va y arriver un jour ou l'autre, que ce soit avec eux ou avec d'autres. On sait qu'il y a déjà la conscience sociale des consommateurs qui mène pression sur les restaurateurs, tout ça. Et ce qui est intéressant, bien, ça l'amène le développement de nouvelles innovations. Puis justement, je voulais vous parler aujourd'hui d'une innovation. Ils appellent ça les bulles d'eau.
C'est quoi ça?
Les bulles d'eau, ben c'est comme une petite poche. C'est quasiment, j'espère, là, les gens... Ça ressemble à un Tide Pod, mettons.
OK.
Tu vois, donc, tu as une petite membrane qui retient l'eau. Et là, tu te mets la bulle d'eau dans la bouche, tu la croques, l'eau sort. Et tu peux manger de la membrane parce que dans ce cas-ci, c'est pas du plastique, mais c'est des algues qui constituent.
Donc, ça devient ton ta bouteille d'eau. Là.
Oui, mais si elle est mangeable. Veut. Donc, au Marathon de Londres, ils l'ont utilisé cette année. Ça n'a pas enlevé toutes les bouteilles d'eau, mais ça a permis d'en enlever 200 000 sur à peu près 1 million de bouteilles qu'habituellement qui auraient été utilisées.
Ben, on aura l'occasion de s'en parler parce que de toute façon, 2021, c'est pas mal loin déjà. Merci, Hélène.
Merci, Martin. Bonne journée.
À demain.